Le Space Cast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
J'ai vraiment pas l'intention de m'étendre longtemps là-dessus, là, mais les Canadiens qui sont pognés sur un bateau de croisière en isolement parce qu'il y a du monde malade dans le bateau, là.
Ouais.
T'as un hostie drive, ça? Pogner un bateau, tout le monde ferme sa gueule. Wow!
Mais quand tu sais c'est quoi le virus, puis t'entends Mark Hamilton en parler, puis qu'il dit qu'une personne sur deux qui pogne ce virus-là crève, peu importe, genre.
Les soins.
Son système immunitaire ou pas, là. C'est juste comme si t'es pas chanceux que tu crèves.
On va tous mourir un jour,
mais. Ça donne pas le goût.
On va tous mourir un jour. Tant qu'à mourir, j'aime mieux mourir dans le silence sur un bateau.
Moi, j'ai ben d'autres options de mort plus cool que
ouais.
Ça.
OK, bon, écoute, je m'essayais. Je pitchais de quoi, voir si ça collait.
Je te le laisse.
Ouais, ouais.
J'essaierai.
Il s'est dit d'un gars qui contemple vraiment l'idée. Il y a des retraites là, dans des monastères là,
ouais.
Qui existent. Je contemple l'idée vraiment de faire ça.
Hey, moi, l'idée de fermer ma gueule pendant plus de 15 minutes m'effraie absolument.
Ah, moi, l'idée de moi de me la fermer, mais aussi que les autres soient contraints de fermer le gars.
Oh.
C'est un vrai rêve, tout ça.
Terrible.
Ouais, fait que, je vais voir.
Vivre ça.
Ouais, je vous le dirai si je m'en vais fixer le vide avec des curés.
Avec GSP puis les moines ce matin.
Ça, hey, man, je resterais-tu bête? Je m'en reviens de bon. Are you crazy in your head, man? Hey, veux du silence?
As-tu déjà vu ça, un T-Rex? Je
serais malade. All right. Hey, parlant de GSP, j'en un peu de UFC. Puis je suis content parce que, crime, pour vrai, il y a des gens qui s'essayent. Tu sais, qui plantent une graine, qui lancent une bouteille à la mer. Puis des fois, il se passe rien. Des fois, il y a des candidatures qui sont moins intéressantes que d'autres. Mais dans le lot, il y en a qui sont particulièrement intéressantes. Puis c'est pas parce qu'on vous book pas 10 minutes après que vous nous ayez écrit que c'est mort. Au contraire, vous plantez une graine, puis elle germe, et à un moment donné, arrive le bon moment. Et c'est aujourd'hui notre bon moment. Il nous a écrit, en plus, il travaille dans le monde des arts martiaux. Il est entraîneur au Nordic Fight Club, ici, à Québec. On a Mischka Boivin qui est en studio avec nous autres. Salut, Mischka.
Enchanté, les boys.
Enchanté.
Un plaisir d'être avec vous autres ce soir.
Ben, plaisir partagé. Merci de nous avoir écrit, parce que nous autres, on est des tripeux de ça. Moi, je suis juste un tripeux. Je suis loin d'être un connaisseur. T'sais, je m'intéresse à ça beaucoup, beaucoup. Même que quand le Canadien joue, je l'oublie pour écouter des galas. En fait, non, c'est pas vrai. Pas écouter des galas. Écouter des analyses d'après gala. T'sais, ça te donne une idée. Là.
Le lendemain.
Ouais, le lendemain. Fait que ça, c'est un sport que j'aime beaucoup. Mais un gros merci de nous avoir écrit. Qu'est-ce que tu enseignes au Nordic Fight Club?
Moi, je suis coach de Muay Thai, kickboxing, fait que striking plus.
OK.
Je donne beaucoup de cours qui sont accessibles à tous, là, que ce soit c'est accès mise en forme et technique, mais autant qu'il y a des gens qui sont de calibre de compétition que des monsieur, madame, tout le monde qui viennent se mettre en forme, avoir du fun. Je donne des cours un petit peu plus techniques aussi dans l'eau des cours privés.
OK.
Puis j'ai bien du fun à faire ça. Ça fait déjà une dizaine d'années. Fait que,
t'as-tu déjà fait des combats? Parce que t'as l'air zéro séquelles.
J'ai arrêté avant, non?
Ouais, OK. Avant de te raser les sourcils d'une centrale de police.
Non, j'ai fait 3 fights en 2015-2019. 2 en kickboxing, 1 en MMA.
OK.
Je vais en faire un 4e, mais it turns out qu'il y a un événement assez mémorable qui s'appelle la COVID. Fait que j'ai comme annulé tous les plans.
OK.
Puis entre-temps, ben, j'ai pris d'autres branches, d'autres intérêts qui se développent, etc. T'sais, j'aime encore le sport, je le pratique de temps en temps, mais j'ai pas dans l'optique de me battre, de compétitionner là, dans le futur proche.
C'est comment manger un vrai kick dans un ring alors que la personne, elle niaise pas, là. Elle veut gagner autant que toi.
Mais pour voir dire, sur le coup, tu le sens pas tant avec l'adrénaline.
Ah ouais? OK.
Mon premier fight, j'ai mangé un solide, un peu à la Anderson Silva, le front kick. Là,
ouais, ouais.
Sauter là, en dessous de la babine.
T'es-tu sérieux?
Ah ouais, ben tu sais, j'ai vu plein de fractions de secondes, ma tête a redescendu, puis on a continué. Là, c'est plus après, quand le combat est terminé, que là, t'as de la misère à manger, puis c'est comme, là, okay. Ça commence à faire mal. Mais sur le coup, pour de vrai, là, c'est... Tu sens pas grand-chose.
OK. C'est après, j'imagine, que t'es comme « wow ».
Moi, tu sais, les low kicks, les coups au corps, souvent, ça s'accumule, ça va faire mal déjà sur le coup. Là, mon visage, c'est moins pire un petit peu, je trouve. Sur le coup, du moins. Là.
OK.
Ah ouais, t'as des grosses cotes, des coups de coude dans la face, ça doit être différent, j'imagine.
Ouais, ben au calibre que tu faisais, est-ce que t'avais un casque?
Ouais, 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 okay. J'avais un casque.
Okay.
En MMA, non, mais en kick, oui.
Ah ouais, pas de casque en MMA?
Non, non.
Oh, shit, man! Ah ouais, quand même. All right. Hey, en début de UFC 328, en fin de semaine, en fait, moi, j'avais lu sur les réseaux sociaux, via le compte de Charles Jourdain, qui était supposé avoir une annonce concernant son prochain adversaire. Puis moi, Charles Jourdain, c'est mon préféré. Peut-être parce que je t'ai embarqué là-dedans avec un petit peu de retard. Quoique j'aimais ça dans le temps de Georges St-Pierre, mais c'est juste pas pas trop ma vibe d'athlète. Mm-hmm. Je sais pas, autant que je reconnais la grandiosité du sportif qu'il est. Je sais pas, Charles Jourdain, il y a de quoi qui me plaît. Là. Je le trouve cool. Finalement, on n'a pas la nature de son adversaire.
Ben non, moi tout, j'étais curieux. Je suis même retourné voir ses médias sociaux. C'était ce matin ou hier, je sais plus. J'attends ça avec impatience. Puis j'en discutais avec un ami aussi. Ben, on a des idées de qui ça pourrait être, qui a fait les call-out. On s'attend principalement à Marlon Chito Vera, qui est peut-être, je ne sais plus, 7 ou 9 dans le classement. Mm-hmm. Whatever, là. Mais c'est lui qui a callé, puis ça serait un super bon match-up. Là, pour une fois, voir Charles contre un autre striker, pas un dude qui veut essayer de l'amener au sol, puis de le maintenir là.
Ça serait explosif en
innocent.
Ah
ouais. Fou, là, ça serait un banger, puis il n'aurait pas besoin de se soucier de son takedown defense, de se faire contrôler. Il s'en sort bien, par exemple, à 135 livres, depuis qu'il a fait la drop. Là, parce qu'il veut pas, il est contre des gars qui sont moins physiques, qui est moins gros. Fait que oui, il peut se faire amener au sol, mais il y a un bon get-up game. C'est la guillotine qu'on l'a vu.
Tu peux pas sortir de ça, là?
Non, si tu pognes, ça va être difficile. Uh-huh. Fait que écoute, j'espère que ça va être Chito. J'espère vraiment. Après la grosse win qu'il y a eu, il est à la porte du top 15. Fait que ça serait vraiment superbe d'avoir un autre Québécois qui rentre. Là,
tu vois quoi comme plafond pour Charles?
Charles, je pense qu'il peut se rendre dans le top 10. Clairement. Après ça, je dis pas qu'il est incapable d'aller dans le top 5, voire plus, mais c'est des gros défis.
Ouais.
Ça prend de la grosse préparation.
Un titre un jour, selon toi, peut-être
possible. C'est pas impossible. Tout dépendamment comment qu'il performe pour les combats suivants.
Ça peut monter vite. Là,
ben oui, ça peut aller vite. Le pense justement à Joshua Van en fin de semaine. Mm. Ça fait même pas 3 ans qu'il est au UFC, puis il a le gold autour de sa taille. Là, fait que, ça prend juste les bonnes circonstances, le bon timing, les bonnes wins, puis tout est possible.
C'est ça. Il y a l'aspect aussi, faut pas l'oublier, l'aspect chaud que tu donnes. Parce que tu gagnes, mais plate, ça t'aide pas tant que ça au point où Charles est dans sa carrière. Mm-hmm. Hein.
Ben non, Charles, il a un style spectaculaire, puis il a combien, je sais pas, il a combien de bonus de performance, mais tu sais, win or lose. il y a tout le temps des fights de fou, fight of the night, des fight of the year contender parfois. Fait que, le UFC veulent le garder all around, là, peu importe ce qui se passe, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'il y a le potentiel pour aller cogner un petit peu plus haut là, dans la division. Là.
Yes. UFC 328, comment t'as trouvé ton gala, ta soirée de samedi?
Cool, pour de vrai. C'est sûr que certains fights qui ont été moins pas à l'image qu'on avait en tête.
Dont l'événement principal.
C'est
tombons là-dedans directement, puis après ça, on break down le reste. Là. Mais tu sais, je pense qu'il y avait quasiment une... Pour moi, du moins, je sais pas si vous l'avez filé pareil, les gars, mais il y avait quasiment une vibe Team USA, Team Canada aux Olympiques.
Mm-hmm.
Mais là, Team USA contre, les musulmans du monde.
Les différentes équipes.
Ouais, c'est ça. Ça sonnait quasiment de même parce que les gars, ils ont buildé une animosité pendant des semaines et des semaines. Ta mère, c'est une Chechen whore. Des affaires de même. T'es comme, man, tu peux pas. T'sais, la dernière fois qu'on avait eu quelque chose de ce genre-là, c'était Khabib contre McGregor. On en a parlé une couple de fois, Louis. Mm-hmm.
Mais finalement, rendu dans l'octogone, c'est plus ce que c'était dans
ben
le temps.
Oui! Moi, je sais pas si ça a été quoi, si t'as été surpris autant que nous autres, là, mais le double handshake au début là, de gars qui sont chums.
Ben oui, puis fun fact, tu sais, je suis des paris sportifs beaucoup sur le UFC principalement, puis il y avait un market, tu pouvais parier, est-ce qu'ils vont se toucher la main avant le combat ou non? Puis je pense que c'était 10% les odds qui se touchent, le gant avant de commencer le fight. Puis turns out que il y a du monde qui ont dû faire du pognon avec ça, en tout cas. Mais oui, c'est bizarre avec tout le bad blood, le build-up. Il y a Sean Strickland qui continue de s'ostiner sur X, sur les réseaux sociaux, que c'était vrai, mais qu'il a gagné le respect dans le sang et l'adversité. Who knows à quel point, je sais pas.
C'est-tu quelque chose qui te déplaît, ça? Parce que lui, il dit que c'est vrai, mais là, ça sonne fake pas mal. Moi, j'aime ça quand c'est vrai. J'aime ça quand, dans l'UFC, on sent qu'il y a une vraie hargne, une vraie haine. T'sais.
Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, pas toujours. Tu peux avoir un très bon fight, même s'il n'y a pas de fire build-up, puis ça n'est pas, clairement.
Dans le respect, tu sais, deux adversaires qui se respectent profondément, ça peut donner un très bon show aussi.
Vraiment,
là.
Mais ça ajoute des fois un petit quelque chose, justement. Mm-hmm. Puis, ce combat-là, il a attiré l'attention de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, je pense, avec le build-up. Peut-être du monde un petit peu plus casual, justement.
Ouais.
Mais là, le fait que la poussière soit tombée aussi vite de cette façon-là, ben, je pense que ça ferme probablement aussi la porte à un potentiel rematch, who knows, parce que tu veux pas, le build-up, il sera clairement pas pareil. d'autres facteurs au travers de ça, mais je suis pas le plus grand fan là, des gros trash talkers de la sorte.
OK.
Y en a qui sont vraiment obvious que ça me dérange moins. Là, ils jouent des personnages, c'est fake, là, tu le vois. Là,
ouais.
Mais des fois, il y en a qui sont vraiment mauvais pour faire le trash talk. Puis tu vois qu'ils se forcent, mais ça marche pas. Fait.
T'as-tu l'impression que Chimaev était soit pas dans son assiette? Moi, c'est l'impression que j'ai eue tout le long du combat. C'est comme on dirait qu'il manque le petit step qu'il est capable d'aller chercher d'habitude.
Ouais, ben personnellement, même dans mon breakdown, mon analyse pré-fight, j'ai dit, je pensais qu'il allait mopper le plancher avec Sean Strickland. Il l'a fait un peu au premier round. Puis, tu sais, j'envisageais la possibilité qu'il fatigue, mais pas au deuxième round. Trois, quatre, cinq peut-être, parce que Sean, son grappling, il n'était pas trop testé depuis quand même une couple d'années. Il y a Dricus qui l'a amené au sol, mais c'est pas un lutteur, c'est pas un gars de joue. Vraiment, ça remontait à loin, là, Kamaru Usman, là, plusieurs années. Fait que, tu sais, de quoi il allait avoir l'air sur son dos, il allait être capable de faire travailler Hamzat. Le fatiguer, justement, même si tu t'amènes au sol, tu te relèves, il essaie de te ramener au sol. On le voit à la fin du premier round, je pense, un gros takedown, il le soulève, il le slam au sol. Fait que ça prend beaucoup de gaz, mais je pensais pas qu'il allait gaz out de la sorte au deuxième. Je pense vraiment qu'il y a un facteur coupe de poids aussi.
C'est ta théorie aussi, toi. Ouais.
Ben, j'écoute la Weigh-In live le vendredi. Puis, tu sais, c'est une fenêtre de peut-être 2 heures, 3 heures qu'ils ont pour se peser. Là. Ils ont quand même un bon jeu. Tu sais, il restait 15 minutes à la fenêtre de la Weigh-In, puis il manquait juste Hamzat qui n'était pas encore là. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de monde qui s'inquiétait pour le poids.
OK.
Puis, il turns out qu'il arrive, il embarque sa pesée, puis c'est pas une pesée électronique. Là. C'est comme
une vraie balance.
Une vraie balance que c'est. Puis, il embarque sa balance, ça prend une seconde et demie. Il ne sait même pas settle, puis 185 livres, puis il s'en va, il se pousse. C'était comme, je sais pas, je suis pas un spécialiste de la balance, là, mais...
Non, mais c'est allé très, très vite. Moi, c'est pour l'avoir regardé, clairement, avec la balance, tu sais, chez le médecin, il prend pas ton poids aussi vite que ça.
Non, non, mon médecin, il s'applique plus que ça.
Non, puis je dis pas pour regarder la pesée toutes les semaines. Tu sais, si c'était vraiment récurrent, qu'il y avait du monde que ça settle vraiment rapidement puis qu'il annonce le poids vite, déjà, je serais peut-être un petit peu moins dans le doute, mais là, ça a tellement été rapide puis on voit jamais ça dans d'autres occasions.
On la balance,
exact,
c'est pas de même gamache,
là. C'était vraiment spécial comme situation. Puis ça me laisse à croire justement qu'il y a une coupe de poids vraiment hard. Je sais pas s'il y avait une blessure ou quelque chose d'autre derrière.
Fait que son niveau d'énergie aurait peut-être pas été full pin comme il aurait voulu.
Déjà qu'il n'y a pas le cardio ultime de prime à bord. Là, on l'a déjà vu dans le passé. Mais honnêtement, je douterais qu'on le revoie chez les 185.
Il va monter. Hein?
Ouais, d'après moi, oui, parce que ça a l'air vraiment hard. Là, il coupait le poids à 170 avant, ça marchait pas. À la fin, là, 185, c'est dur. Il y a aussi des rumeurs qu'il devait se battre à la dernière grosse carte, qui est aussi 327. Qui aurait peut-être eu un fight contre Prochaska pour le titre intérimaire. Fait que, tu sais, s'il se préparait à se battre à 205 livres, puis il bulk, puis après ça, finalement, on change les plans, tu recoupes plus bas. C'est sûr que ça peut affecter un petit peu la game, mais ça reste des spéculations en quelque sorte. On n'a pas toutes les certitudes derrière ça. Mais c'est
tant qu'être d'un spéculation, est-ce que tu crois à un rematch? Mais là, dans la lignée de ce que tu viens de dire, est-ce que Strickland peut monter?
Ça me surprendrait que Strickland il monte. Je pense qu'il est bien à 185 livres. Il vient de regagner son title pour la deuxième fois. La première fois à Adesanya, c'était spectaculaire. Un des strikers les plus élites des 185 livres. Puis là, il vient de battre un des grappers les plus élites des 185 livres. Fait que, d'après moi, il va rester là puis il va essayer de défendre son titre.
Il faut-tu commencer à mettre un certain respect sur le nom de Sean Strickland? Parce que même moi qui connais ça quand même, je lui donnais aucune chance. Personne n'est donné aucune chance contre Chimaev. Tout le monde le voyait un peu comme un agneau sacrifié. Mais à un moment donné, il va falloir y donner ce qu'il vaut.
Pour vrai, je me sens compte pas avoir mis un 10 sur Strickland. Juste 10$. Ben, parce qu'on aurait fait un petit moton le fun.
Un genre de 40$.
Ouais, c'est un gros underdog quand même. Là. Mais oui, Strickland, il est là depuis longtemps. Il refuse jamais de fight. Il n'y a pas le style le plus spectaculaire nécessairement. Il est très linéaire dans son pace.
Le
il jab,
Philly
il tape, le Philly Shell, c'est peu commun. Mais il a son style à lui, puis tu sais, il est tout en rente de se battre contre n'importe qui, c'est un dog. Puis il a quand même fait ses preuves, là. Il a battu des gros noms dans la division, des fois short notice, puis même le potentiel prochain contender, c'est Nassourdine Imavov, puis il me semble que Sean l'avait battu en short notice. Fait que, je pense qu'il faut lui donner son crédit, là, après ce qu'il a fait hier, c'est sûr et certain.
Un autre à qui je veux qu'on donne du crédit, parce que là, hier, il est rentré dans ma légende, Tatsuro Taira.
Tatsuro Taira.
Hey, man, le power japonais qui ne veut pas mourir, man.
Incroyable.
Mais quel homme!
Combat. Quel combat.
C'est contre Joshua Van. Oui, Joshua Van, toute une performance. Mm-hmm. Je pense que c'est le premier athlète du Myanmar à l'emporter puis à devenir champion dans l'UFC. Très hot. Mais man, est-ce que l'arbitre a arrêté trop tôt, selon toi, ou c'est juste un humain qui, du respect de la dignité humaine.
Trop tôt ou genre trois rounds trop tard.
Ouais, ouais, mais... ouais, c'est ça, c'est un ou l'autre.
Mais je comprends le stoppage, mais c'était quasiment un stoppage de. Pas pitié, mais tu sais, t'en as trop mangé, là, that's enough, parce que lui, il voulait continuer, clairement.
Complètement, il était fâché après l'arbitre.
Vraiment, mais la seule chose que, tu sais, je trouvais par rapport à ça, c'est, tu sais, quand j'ai vu le combat live, il fallait peut-être que je le réécoute, là, mais tu sais, au troisième round, Tyra, il s'est fait dropper quand même assez solide, il s'est fait piece up du ground and pound, etc., puis je pense, optiquement, je trouvais qu'il était plus en danger quasiment à ce moment-là.
Mais ça aurait dû être là que
au
le combat s'arrêtait, ouais.
Exactement, mais turns out, je pensais qu'il était fini, puis il est revenu, il gagne le quatrième round, puis... Tu sais, il y a quand même. Faut le faire, là, avec la volée qu'il a mangée. Il s'est fait dropper deux fois, revenir au quatrième, emporter le round. Là, c'est un vrai guerrier.
C'est fou, moi. J'ai...
Alors, c'est capoté.
Je suis convaincu que son environnement, son entourage, on dit, man, t'étais à ça de mourir, là. Mais juste, t'es part de ça, là. C'est, j'en revenais pas. D'un point de vue technique, là, quand un athlète en prend un autre, le soulève, puis le drop, tu sais, lui fait quasiment une pause de lutte, là, quasiment une descente du coude, si on veut. L'idée de ça, c'est quoi? C'est d'en venir où? C'est-tu d'ébranler l'adversaire, d'y faire mal ou de le placer dans une position pour le soumettre plus tard?
Ben un peu de tout ça, parce que veux pas, si tu lèves quelqu'un vraiment haut, tu le slams, ça peut couper le souffle. On a déjà vu
la gravité de ton bord.
Ben oui, on a déjà vu des KO, TKO avec ça, là, le monde qui drop sa tête ou sur l'épaule, ça disloque, ou même ça peut donner des positions avantageuses straight up. Mais aussi pour les yeux des jeux, je veux dire, si je fais un petit single leg puis je te drag au sol vraiment lentement, c'est smooth, c'est technique, fine. Mais si je te prends puis je te slam au sol avec beaucoup de puissance, ben là, pour les juges, ça paraît mieux.
C'est de l'or en bord, ouais.
Beaucoup plus de points. Puis de plus en plus, on voit justement les juges que quand tu as un takedown puis tu fais rien avec, tu réussis un single leg, mais tu n'as pas de ground and pound, pas de contrôle, l'autre se relève, ils vont donner de moins en moins de points pour ça. Puis on l'a vu justement dans la finale, là, Strickland-Chimaev. Tu sais, le dernier round, Chimaev, il a fait 6 takedowns, je pense, mais il n'a rien fait avec. Il a eu un peu de contrôle, pas de ground and pound. Puis il y a deux juges qui ont donné le cinquième à Strickland. Fait que d'avoir des takedowns vraiment spectaculaires, c'est sûr que ça peut peser un petit peu plus là, dans la balance. Faire du dégât, créer des opportunités.
Les Japonais sont-ils tous de même en UFC?
Bonne question. Ouais, écoute, en tout cas, Tyra, lui, c'est un vrai guerrier.
Moi, j'ai pogné de quoi? Je trouvais qu'il avait l'air d'un Saja Boys. Je sais pas si t'es familier avec les chasseresses de la K-pop. Là. Moi, j'ai deux petites filles. Là, fait que je trouvais qu'il avait l'air d'un gars dans le band de K-pop, mais il est ressorti de là, boursouflé de partout.
Ben oui, il a l'air du bonhomme Michelin rouge. Là, fait que il en a mangé toute qu'une.
En tant que coach, là, tu vois ton combattant qui est en train de manger une volée de même, qui a la gueule ensanglantée comme il y avait. Tu le drapeau blanc? Mais ça, on voit jamais ça, des coachs qui tirent le drapeau blanc dans l'UFC.
C'est rare. Oui, ils peuvent. C'est déjà arrivé qu'ils jettent la serviette, mais quand c'est un fight d'un enjeu aussi énorme, je pense qu'ils sont pas prêts à le faire, à moins que ce soit vraiment comme le double est inconscient puis ils mangent des shots, je sais pas trop.
Mais le ref va l'arrêter avant.
Ouais, le ref, il va l'arrêter avant, je pense, en général. Là, c'est vraiment des cas exceptionnels.
Règle générale, dans l'UFC, trouves-tu que les refs sont trop tolérants sur à quel point un gars peut se faire martyriser ou bien sont juste sur le point?
C'est inconstant, ça dépend du ref.
Ouais, puis pour vrai, je peux comprendre le grand public d'être un comme « Wow, c'est quoi cette affaire-là de sauvage qu'est l'UFC? » Quand, tu sais, le gars est un peu comme évanoui, puis il reçoit 3-4 coups de hammer fist, là, bang, bang. Je peux comprendre le grand public faire comme, hey, je vais en rester à la boxe.
Non, c'est sûr que ça augmente le niveau de brutalité d'un certain cran quand tu vois ça. Mais tu sais, c'est tellement d'un ref à l'autre, qu'est-ce qui se passe dans l'action, des fois, il y en a qui sont plus tolérants déjà, d'autres qui le sont moins. Des fois, ils n'ont juste pas le temps de se rendre au dos, puis il a déjà reçu deux coups de trop dans le visage. Il y a plein de circonstances autour de ça, mais c'est clair que ça manque un peu de ligne directrice de temps en temps. Là. T'en vois un qui va tolérer beaucoup, beaucoup de coups, il arrête, puis d'autres que des fois, c'est un petit peu short, tu te poses des questions.
T'as-tu toujours arbitré? Ça doit pas être évident.
Ça doit être tout qu'une job quand même. Justement, tu dois recevoir beaucoup de critiques, puis no matter what, il va toujours avoir du monde pas content, j'ai l'impression.
T'as les meilleurs sièges dans l'aréna, là, mais...
Ça doit être épique.
Oui, effectivement. Sinon, écoute, moi, j'ai bien aimé aussi le combat de Waldo contre Volkov. Waldo Cortez Acosta, mais je sais pas si t'es d'accord avec moi, je trouve que Waldo se l'est peut-être un peu fait voler, entre guillemets. Moi, en partant, je suis pas très fan de Volkov, là, en toute façon.
Ouais, des fois, on peut être biaisé un peu de la sorte. Moi, j'avais un bet sur Volkov, fait que j'étais quand même content. mais écoute, je comprends ton point, c'était quand même serré. Premier round, honnêtement, ça aurait pu aller pratiquement d'un côté comme de l'autre, j'ai l'impression. Volkov, peut-être plus de coups portés, à distance de kick. Waldo touche moins, peut-être des coups un peu plus d'impact. Deuxième, je pense c'est le plus clair pour Volkov. C'était serré, mais le wobble un peu vers la fin. Tu as vu Waldo faire un mini chicken dance. Là. Il était pas solide sur ses jambes. J'aurais aimé voir plus d'urgency de Volkov à ce moment-là. Pour un peu le pace.
Je l'ai trouvé apathique, là, un peu comme nonchalant. Mm-hmm. Volkov, j'ai trouvé.
Ben, comparé à ses performances passées, oui. Puis même au troisième round, on l'a vu, là, il a vraiment ralenti d'un gros cran. Fait que, autant c'est un vet qui a des victoires vraiment de qualité qui est dans le top de la division, que tu veux-tu vraiment le récompenser avec une méga opportunité après un fight comme ça? Ben, je suis pas certain.
C'est l'âge qui le rattrape un peu aussi en même temps.
Ouais, c'est clair. Là. Ben, souvent, les heavyweights, ils peuvent performer un peu plus vieux. Mais on a vraiment vu un ralentissement, je pense, flagrant de Volkov. Là,
C'est quoi le... En fait, est-ce que, tu sais, dans ton analyse de la carte du 328, as-tu un autre combat qui a retenu ton attention? Ou, tu sais, je suis allé avec les plus gros, là, mais
ben, clairement, la demi-finale, ça a été mon fight préféré. Puis c'est lui que j'anticipais le plus. Puis tu sais, sur papier, mettons, j'ai pas vu le combat. Puis tu me dis que Tatsuro Taira, il a eu 8 takedowns, il était en full mount 5 fois, puis 10 minutes de contrôle. Jamais j'aurais cru qu'il aurait perdu ce fight-là. Fait que c'est quand même...
C'est fou, ça.
Ah, Joshua Van m'a vraiment impressionné. Là. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une autant bonne défense responsable au sol, qui donne pas son dos, qui réussisse à se relever. Fait que ça a été vraiment là, un de mes highlights.
Okay.
Sinon, de mes performances, ça aurait été Yaroslav Amosov. Je sais pas si vous êtes familier avec le duo.
Non, non.
C'était vers la fin des prélims contre Yoel Alvarez. Amosov, qui est un Ukrainien, il était champion Bellator dans le temps. Ben là, il est rendu 30 victoires, une défaite après la performance de samedi, ce qui est quand même respectable.
Ouais,
c'est assez respectable. Puis tu sais, le gars, il l'a pas eu facile. Là. Il était vraiment actif, il a perdu son titre, mais c'était pendant quand la guerre en Ukraine a éclaté puis tout. Là. Fait que un combat tough, il est allé prendre les armes là-bas. Il est revenu. Il y a des vidéos de lui qui déterre sa ceinture
en ligne. C'est lui qui sort la ceinture. Aïe.
Il y a Roslav Amosov, c'est quand même badass.
Oui, j'ai vu cette vidéo-là.
Là, il est entré au UFC il n'y a pas si longtemps. Il a combattu Neil Magny, que vous connaissez peut-être, qui n'est pas nécessairement le combattant le plus élite, mais pour le soumettre en 3 minutes, il faut quand même être bon, je pense. Puis là, il y avait quand même un bon test là, samedi. Yoel Alvarez, qui a aussi une très bonne fiche. Je pense qu'il a 17 victoires par soumission, puis il s'est fait jamais soumettre. Fait que justement, il y a eu un gros slam au deuxième round, puis il est tombé direct ou presque dans un arm triangle. Il chauffe, fait que de toute beauté, à mon avis. Ça a été pas mal ma performance, une qui m'a marqué. Là.
Tu disais que tu étais pas mal dans le pari sportif. Mm-hmm. T'as-tu mis des bets sur ce gars-là en fin de semaine?
Ah ouais, ben j'ai des actions sur toutes les cartes. Là. Ben, tu sais, je passe environ... 25 heures en moyenne de recherche pour chaque carte.
Shit!
Ouais, c'est quand même du stock.
Tu réussis-tu à faire, à les avoir la grande majorité du
temps? Ouais, sur le long terme, ça va bien. Ça fait à peu près 3 ans que je track tout ce que je fais. Fait que, tu sais, j'ai
positif.
J'ai des chiffriers Excel, je rentre toutes mes données.
T'es sérieux?
Sinon, je ferais pas ça tout le temps.
Tu y vas-tu? Tu sais, parce qu'on a déjà jasé avec des gens là, qui font ça un peu professionnellement à cette heure. Puis eux autres, ils disent tout le temps que les parlays, là, de faire des paris combinés, d'en mettre plein, c'est stupide parce que tu vas tout le temps à perdre. Même si ça paraît des gros montants, t'es mieux d'y aller par tous les paris séparés.
Ouais.
Toi, tu y vas-tu en mode big shot, on aligne tout le monde?
Non, la majorité de mes plays, c'est vraiment des single shots, comme ils disent. Là, ce qui est le moins risqué, parce que plus tu combines de choses, même si sont probables, à un moment donné, tu mets 5 trucs ensemble qui ont 80% de probabilité, ben, si tu roules un dé à 5 faces, à un moment donné, il y en a un qui va chier, tu comprends. Là.
Mm-hmm.
Puis les books, ils font probablement la majorité de leur profit avec justement tout le monde qui font une chier de parler sans arrêt. Là.
Hey, c'est j'ai ça. Mis 2 piastres, ça va payer 8 millions!
Mais tu sais, j'aime ça, la majorité de mes plays, c'est tout le temps des singles, mais de temps en temps, des combinés, mettons 2-3 legs max, que je juge quand même safe, ça va, tu sais, mais je vais pas... Ça va pas, c'est pas ce qui va comporter la majorité là, de mes actions. Là.
T'as-tu une plateforme que tu privilégies plus que les autres?
J'en utilise 6-7
mes autres jeux, bien sûr.
Oui, on va dire.
mais c'est intéressant, par exemple, t'sais, parce que c'est comme le premier réflexe de bain du monde. T'sais, t'es au Québec, ici. Mais non, c'est pas intéressant.
Non, j'utilise pas mes autres jeux personnellement.
Pour quelle raison?
Peut-être les odds qui sont moins avantageuses ou l'offre aussi des différents types de lignes. T'sais. Dépendamment des books, il y en a qui vont donner plus de choix. Il y en a que tu peux parier sur le gagnant-perdant, le temps, mais il y en a d'autres que tu peux parier sur les takedowns, les coups significatifs, qui sont un peu plus nichés pour le MMA. Puis, tu sais, pour moi, c'est important d'avoir quand même une bonne diversité parce que je magasine ma cote.
Mais tant qu'à mettre 25 heures là-dessus.
C'est ça. Ou des fois, des plus gros montants. Fait que, tu sais, justement, je peux trouver une plateforme qui va avoir certains combattants, je sais pas, à moins 150, mais partout sur le market ailleurs, est à moins 190. Fait que,
il y a
plus fou qu'un autre. Je vais prendre le moins 150. Fait que, tu magasines un peu qu'est-ce que tu veux, puis tu trouves les bons spots. Là.
Tu sais, on avait parlé, je pense, c'était William, le gars qui faisait du pari sportif de hockey.
Ouais.
Puis lui tenait une page. Puis il documentait ses affaires, puis il interagissait avec une communauté. T'es-tu là-dedans ou toi, t'es vraiment en mode autistique solo?
Non, j'ai quasiment un an, en fait, là, j'ai commencé à faire des breakdowns. Fait qu'à chaque semaine, chaque carte, je sors mon breakdown de chaque combat. Tu sais, je peux parler entre 5 et 12, 15 minutes sur un fight si je m'emballe comme faut. Fait que tranquillement, je build up une communauté. J'ai mon podcast avec un autre passionné, Max Carabine. Ça s'appelle Décision partagée.
Ouais.
À chaque semaine, on se rencontre puis on jase de MMA. Ma page Instagram, puis là, je suis rendu, j'ai mon Patreon. Fait que tu sais, les autres dégénérés comme moi qui veulent un peu voir qu'est-ce que je fais. Mais oui, il y a les paris, mais aussi la réflexion derrière chacun d'eux.
J'ai peut-être
une dissertation sur chaque bet que je fais, là, que le monde comprenne un peu vers où je m'en vais. Y a-t-il de la value sur le bet, pourquoi je le fais, etc.
Fait que la meilleure façon d'entrer dans ton univers, c'est vraiment sur, mettons, t'as rejoint sur Facebook, Mishka Boivin?
Non, j'ai Guts MMA sur Instagram.
Ouais, okay.
Guts, G-U-T-S MMA. Fait que c'est là que je suis le plus actif, je dirais. C'est pour Patreon. Ma page YouTube également, c'est comme ça, le Guts MMA.
All right. Hey, en terminant, parce que je vois que le temps est en train de runner quand même pas pire. Ben oui, la merde a pogné pour la présentation aux médias du gala de la Maison-Blanche. Ta perception globale de cette patente-là, là, le gala à la Maison-Blanche, moi qui est un fan de politique puis de symbolique, il y a un bout de je suis comme ouais, mais en même temps, j'aime ça ce sport-là. Fait que je suis comme.
J'étais un peu comme toi, je trouve ça spécial, là, ouais. UFC à Maison-Blanche, mais en même temps, je trippe sur l'UFC, qu'est-ce qu'ils font, fait que ça m'a donné une grosse, grosse plateforme.
Je trouve
évidemment
que la noblesse, entre guillemets, là, de la boxe prête mieux au contexte de la Maison-Blanche, mais j'aime fucking mieux le UFC que la boxe, tu sais.
Ouais, je suis de ton avis pour ça, fait que, écoute, je trouve ça bien pour le MMA, pour le UFC, c'est clair. Les circonstances sont spéciales un peu, on va pas se le cacher, mais je vais pas me plaindre pour ça.
Trouves-tu que la carte est de niveau pour l'ampleur de l'événement?
Ben honnêtement, j'avais pas tant d'attentes. Parce qu'il y avait comme Dana White puis Trump, ils disaient qu'il va y avoir 8 title fights.
On est habitué de se faire un peu fourrer.
Mais c'est impossible. Tu mets 10 title fights sur ta carte, tu vas faire quoi pour le reste de l'année? Tes pay-per-view, je veux dire.
Non, c'est ça.
Des 2-3 mois à venir. Ça marche. Fait que j'avais pas vraiment des hautes attentes. Fait que pour moi, c'est une bonne carte quand même. Là, ce serait l'équivalent d'un très gros pay-per-view. Mais c'est sûr que tu dis une carte à la Maison-Blanche, je peux avoir des attentes un petit peu plus élevées par rapport à ça.
Hey, c'est sûr que je vais aller te suivre. Rappelle les gens comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre.
Guts MMA, G-U-T-S MMA, Instagram, YouTube, Patreon, c'est des dégénérés qui veulent pousser un petit peu plus. Juste encourager là, les breakdowns, etc. que je fais, c'est là que ça se passe.
Mishka Boivin, un gros merci.
Un plaisir, merci à vous.
Gros merci de t'être déplacé. Puis si t'as le goût, une fois de temps en temps, de jaser de MMA. T'es-tu dans boxe aussi un peu là-dedans?
Boxe, moins, pour de vrai. Okay. Là, des fois, je suis un petit peu qu'est-ce qui se passe, les gros fights, mais je suis vraiment un gros geek de MMA. Là.
All right, ben écoute, si t'as de temps à m'emmener, tu repasseras faire ton tour, nous jaser ça. Pis,
avec plaisir.
On suit ça en à côté, anyway, fait qu'on n'a pas fini de jaser, mon vieux.
Superbe.
On fait une courte pause, le Spacecast est avec vous jusqu'à 22h.
Le Spacecast.
Avec JF Blais. Et Louis Gauvin.
Radio X.
Le Spacecast présenté par l'atelier. Découvre notre nouvelle offre, les cours de mixologie. Tous les jeudis, vendredis et samedis dès 18h, apprends shake comme un pro lors d'un cours d'1 heure. Bistrolatelier.com.